Vous écoutez
RMC.
RMC 6h30.
RMC, Apolline Matin.
Excellent réveil à tous sur RMC, le journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. En bande organisée, Marseille allume la flamme après une arrivée flamboyante dans la ville hier. Départ du relais ce matin, 117 porteurs vont se relayer dans les rues de la ville jusqu'au stade Vélodrome. Ouvrir le débat sur la ménopause, ambition d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État annonce l'ouverture d'une mission parlementaire sur le sujet qui concerne 14 millions de femmes en France. Et puis le début de la tournée européenne de Taylor Swift à Paris. La démesure de la star, 80 semi-remorques, plus de 2000 personnes mobilisées pour un show très attendu par les fans de la chanteuse américaine.
Marseille ouvre le relais de la flamme olympique.
Le début d'un périple de plus de 5000 km pour rejoindre Paris le 26 juillet prochain. Et c'est donc à 8h20 ce matin depuis Notre-Dame-de-la-Garde que s'élancera ce relais pour un parcours dans les rues de la ville jusqu'au stade Vélodrome en début de soirée. Parmi les 117 relayeurs, des personnalités, Eric Dimeco, soprano ou encore Didier Drogba, mais aussi des anonymes. Parmi eux, Colette, 83 ans, Amélie Lafchard l'a rencontrée pour RMC.
Elle recevra la flamme des mains de l'ancien footballeur Basile Boli, légende de l'Olympique de Marseille, Colette Cataldo, 83 ans.
Quand on m'a dit que j'allais participer, je savais plus quoi dire, quoi, parce que dans une vie, quand même, c'est pas donné à tout le monde. C'est un grand honneur. Je suis contente que la ville de Marseille ait pensé à moi.
Et si la mairie a pensé à elle, c'est parce que Colette est bien connue des Marseillais, supportrice historique de l'OM. Elle ne rate pas un match. Elle a même déjà donné plusieurs coups d'envoi au Vélodrome. Mais à l'idée de porter la flamme olympique,
je me sens un peu stressée. Je me suis un peu entraîné, j'ai porté un peu un marteau qui pesait 1,2 kg. Mais enfin, je crois que si je marche, je marcherai.
Amatrice de trail, Nathalie Paoli, elle n'a pas prévu de marcher pour le relais. Également présidente et cofondatrice de l'association Le Point Rose, venant en aide aux parents endeuillés, elle avoue tout de même avoir un peu la pression.
Il va falloir quand même avoir une foulée digne et essayer d'avoir la prestance nécessaire, parce que cette flamme, elle a quand même une histoire, elle est ultra symbolique.
Une flamme symbolique, synonyme d'espoir pour cette Marseillaise qui portera la torche olympique au nom des parents qu'elle accompagne.
Romain Houg avec Amélie Lafchin. Une flamme arrivée donc par la mer hier à bord du Belém, entrée majestueuse dans le vieux port de Marseille, traversée par la patrouille de France, devant plus de 150 000 personnes venues assister à ce moment d'histoire. C'est Jules qui a embrasé le chaudron après un relais avec Florent Manaudou et Nantenin Keita sous les yeux d'Emmanuel Macron. On rentre dans les jeux, déclare le chef de l'État, qui évoque un moment de joie et de fierté dans le pays. Emmanuel Macron qui demande à ses ministres de se démultiplier à un mois de l'élection européenne. Le gouvernement est sur le pont ce jeudi de l'Ascension. 29 ministres en déplacement sur le terrain avec de nombreuses interviews dans les médias locaux. L'exécutif en prise avec le terrain pour tenter d'enrayer la baisse des intentions de vote pour le camp présidentiel dans les sondages. RMC, il est 6h passé de 33 minutes. Il dénonce la lenteur de la justice. Blessé au thorax par un tir de la BRI à Besançon il y a un an, un homme a décidé de saisir un juge d'instruction. Une enquête qui piétine Guillaume Bier malgré la responsabilité avérée des forces de l'ordre dans cette affaire.
Ce matin-là, la BRI sait qu'elle intervient chez un délinquant chevronné. Dans l'appartement, un chien aboie, les policiers sont nerveux. Dès qu'un homme torse nu ouvre la porte, un agent tire et le blesse grièvement. Une caméra a tout enregistré, précise l'avocat du jeune homme, maître Christophe Bernard.
Cette vidéo, elle est accablante parce qu'elle prouve que dans la même seconde, mon client, il se fait tirer dessus.
Or, le jeune homme n'était pas armé et ce n'est pas lui que les policiers venaient interpeller. Le tireur de la BRI a été interrogé par les enquêteurs de l'IGPN, dont les conclusions sont limpides, résume l'avocat.
L'IGPN vient conclure que le tir n'était pas nécessaire et qu'il n'y a surtout aucune légitime défense.
Ce rapport d'enquête a été remis au parquet de Besançon dès le mois de janvier, mais depuis...
Nous sommes face à la loi du silence. Le parquet a eu connaissance de ces conclusions du GPN. Eh bien, le ministère public a décidé de ne pas réagir. C'est le mutisme le plus complet.
Maître Bernard et son client ont donc porté plainte avec constitution de partie civile pour qu'un juge d'instruction reprenne cette affaire.
L'épidémie de choléra fait une première victime à Mayotte. Un enfant de 3 ans mort dans la commune de Kounkou. Les premiers cas avaient été recensés au mois de mars sur cette île française où 58 autres cas ont depuis été enregistrés. C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron dans son entretien au magazine Elle hier. Le lancement d'une mission parlementaire sur la ménopause pour le chef de l'État qui souhaite mettre en place des actions préventives. C'est un vrai tabou de la société qui touche, cela ne garderait, 14 millions de femmes en France.
Oui, car elles ressentent un vrai manque d'informations, à l'image de Francesca.
Les traitements hormonaux, un coup on nous disait que c'était pas bon pour la santé, un coup on nous disait que c'était bon pour la santé. Un peu compliqué.
Que ce soit pour les traitements ou les symptômes, cette méconnaissance est favorisée par le tabou qui entoure la ménopause, affirme Marianne.
C'était la pudeur, on parlait pas et on déguisait les mots pour en parler.
Auprès des proches, mais aussi au travail, se souvient Dominique.
Les femmes n'avaient pas tellement intérêt à parler de leurs petits problèmes. Déjà qu'elles étaient un peu considérées comme moins fortes et moins compétentes que les hommes.
Le but de la mission parlementaire sera donc d'apporter des connaissances au grand public, mais aussi aux médecins, explique la professeure Florence Trémolière, co-directrice de la mission parlementaire.
Il n'y a plus du tout de formation universitaire des médecins des générations qui sont sortis à partir des années 2005-2010. Et de ce fait, les praticiens sont souvent désemparés pour aider ou pour répondre aux questionnements de certaines femmes.
Signe de cette méconnaissance, en 2022, seuls 6% des femmes prenaient un traitement hormonal en cas de forts symptômes.
Allez, on revient à Marseille qui va vibrer ce soir pour son club, l'OM, dernière équipe française engagée en Coupe d'Europe. Déplacement à Bergame à la clé, une place en finale de Ligue Europa, un partout à l'aller. Atalanta OM, c'est à vivre sur RMC dès 21h. Et puis le Real Madrid affrontera Dortmund en finale de Ligue des Champions, mené 1-0. Hier soir, les Espagnols ont renversé le Bayern Munich. Match pour s'imposer 2-1. Et puis c'est l'autre événement de la journée, le premier des 4 concerts de Taylor Swift en France. La star américaine débute ce soir sa tournée européenne à la Défense Arena. 45 000 fans sont attendus chaque soir. Des Swifties impatients malgré le prix des places très élevé. Certains ont dépensé plus de 200 euros pour voir leur idole.
C'est un gouffre financier. Mais combien de personnes vont nous envier d'être allées au concert et d'avoir tout ça? Et qu'est-ce qu'on va s'éclater? Je m'attends à un truc de ouf. J'espère qu'il y a des surprises comme des nouvelles chansons, etc. Mais juste, je pense que je suis heureuse d'y être en fait. Oui, c'est l'expérience. Et on va écouter des chansons nouvelles de l'album de Taylor Swift, The Torture Sport Department. Là, j'ai hâte.
Et là, c'est la fin de semaine. Donc,
on
plus, on a fini les examens. Du coup, c'est la libération et se dire qu'on a ça en fin de semaine, mais c'est merveilleux quoi. Ouais, vraiment, c'est parfait. Cursing my name, wishing I stayed.
Look at how my tears. Les Swifties, impatients devant la Défense Arena. Oui, ils ont bien de la chance. Et puis les courses, Thibaut, aujourd'hui, bah là aussi, il faudra peut-être avoir un peu de chance, même si il y a l'aide de la Dream Team pour les pronos, ce sera à Paris-Longchamp.
20h15 en nocturne sur RMC Découverte, le 9 spécial et le favori de la Dream Team RMC. Son outsider, c'est le 2. On y croit, comme l'OM, le 9 et le 2.
Ah oui, on y croit pour l'OM ce soir. Ah bah, bien sûr. Que Thibaut Texer est notre supporter numéro 1 de l'OM. Seul, mais... Oh, pas le seul, loin de là, mais c'est le fraté. Ah. Thibaut Texer, ce soir à fond derrière l'OM. Bah, tiens, qui a vibré aussi, j'imagine, hier soir devant cette.
Ah, bah oui, j'ai regardé cette cérémonie. Elle était magnifique, quoi.
Ouais. Et Jules, c'était le bon choix, là, ça.
Oui, alors, on en parlait tout à l'heure. La dimension Zidane au niveau international aurait peut-être été plus frappante, mais Jules est un bon choix, oui, quand même.
Ah, un bon choix.
C'est un choix local.
Pour Thibaut Texer, oui, ça a fait du signe Jules devant la télé hier soir.
Pas tout seul, non.
Bah, peut-être ce soir, en cas de qualif de l'OM. Oui. À oui. Suivre, donc.
Dans les rues de Paris.
Sur RMC. Et on retrouve Thibaut Texer tout à l'heure. 7h30 en direct, évidemment, il est 6h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
De Marseille à Tahiti, en passant par Lille, Périgueux ou Châteauroux, la flamme olympique va traverser des centaines de communes en métropole, dans les Outre-mer. On a tous vu hier ces images incroyables de son arrivée à Marseille. La surprise, le rappeur Jul, hein, pour allumer le chaudron olympique. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous a donné envie, tiens, d'aller voir la flamme près de chez vous dans les jours qui viennent? À vous de nous dire dans un instant. On vous attend évidemment au 32-16. Est-ce que ça y est, vous avez eu le déclic olympique en voyant le Belém entrer dans le vieux port de Marseille? Vous nous le dites dans un instant. On est avec toute l'équipe, avec Seb, Manu, Nico. Ça se passe sur RMC et RMC Story.
RMC Police Justice.
Tous les matins, une histoire repérée, racontée par le service Police Justice d'RMC. On retrouve Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'histoire de ce vétéran de l'armée américaine qui a menti pendant 20 ans en se faisant passer pour une personne handicapée.
Oui, ça nous rappelle cette fameuse scène du film Bienvenue chez les Ch'tis. Vous savez, au début, quand le personnage joué par Kad Merad veut sa mutation à Sanary-sur-Mer, qu'il est contrôlé et qu'à la fin de l'entretien, par réflexe, il se lève pour serrer la main de Jérôme Commandeur. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé à un ancien soldat de l'US Navy qui a réussi à mentir pendant 20 ans pour toucher des allocations aux personnes handicapées. Christopher Stulz intègre la marine en 1995, mais un an après, il fait une mauvaise chute de cheval, il est blessé au aux jambes. L'armée le relègue à des tâches subalternes avant de le réformer en 99. L'administration le considère alors comme partiellement invalide. Mais en 2003, le vétéran décide de basculer dans le mensonge. Il prétend qu'il est désormais incapable de marcher, que ses pieds ne répondent plus, et il est suffisamment convaincant pour être considéré invalide, cette fois à 100%. Sa pension mensuelle est revalorisée. Il obtient même des aides financières pour s'acheter des voitures spécialement équipées, voitures qu'il revendait aussitôt d'après le procureur, puisqu'en réalité cet homme n'en avait pas du tout besoin.
Mais alors Guillaume, comment a-t-il été démasqué ?
Eh bien, tout bêtement, un jour, après un rendez-vous médical à Boston, sur le parking, quelqu'un l'a vu se lever de son fauteuil roulant, le soulever, le ranger dans son coffre de voiture et marcher normalement pour reprendre le volant. Une enquête a été ouverte, des filatures ont été menées et plusieurs fois, Christopher Stultz a été observé sur ses deux jambes, déambuler sans problème au centre commercial, par exemple. Dans l'école maternelle où ce vétéran travaillait, personne ne l'a jamais vu en fauteuil roulant, personne non plus dans son entourage durant ces 20 dernières années. C'était uniquement une supercherie auprès des services médicaux et du bureau des anciens combattants pour obtenir des allocations et le remboursement de tous ces frais médicaux. Désormais, c'est terminé. La justice américaine a mis fin à cette escroquerie et cela s'est terminé par un procès au cours duquel le vétéran a dû plaider coupable. Il vient d'être condamné à 18 mois de prison, plus le remboursement de 662 000 dollars de pension indûment perçue.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
RMC.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
La flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. Cette flamme olympique, elle va maintenant passer à travers 400 communes. Ce sera Marseille, ce sera Paris, la Seine-Saint-Denis, sera Tahiti pour la vague, Châteauroux et tant d'autres communes. La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français.
C'est la fête, oui, des Françaises et des Français, dit Emmanuel Macron. Alors est-ce que vous, ça y est, vous comptez participer à cette fête des Jeux Olympiques? Ça commence ce matin, hein, départ du relais de la flamme à Marseille. On va le vivre ensemble tout à l'heure en direct à 8h20. Et elle partira de Marseille, mais elle passera ensuite partout en France, en Outre-mer, 400 communes. Est-ce que, tiens, ces images exceptionnelles hier soir à Marseille vous ont donné des frissons peut-être d'abord, de la fierté et puis envie ensuite de participer, d'accompagner ce relais de la flamme autour de chez vous? Est-ce que, tiens, aussi ce choix de Jules comme dernier porteur pour allumer le chaudron hier soir, qui ont fait un peu polémique aussi, hein, on va le dire, hein, on fait réagir certains depuis hier soir. Est-ce que vous, ça vous a plu ou pas? Je vais commencer par un petit tour de table avec toute l'équipe. Nicolas Poincaré vient de nous rejoindre. Salut Nico.
Bonjour.
Évidemment, Nicolas n'a rien manqué de cette cérémonie.
Évidemment.
Combien de temps, Nicolas, pour reconnaître Jules à l'image?
Jusqu'à ce que les commentateurs disent de qui il s'agissait.
Non,
je vais pas vous mentir, ça, c'est pas ma génération, ça me parle pas beaucoup. J'aurais préféré Zizou, mais je comprends bien que c'est quelqu'un d'important à Marseille et j'ai absolument rien contre.
Alors, choc des générations, je me tourne vers Estelle Gass, la plus jeune de la table. Estelle, qui a mis un peu moins de temps, je pense, à reconnaître Jules. Oui. C'était un bon choix, Jules, pour allumer?
Je pense, et surtout, je pense que c'est un bon choix pour inclure toutes les générations aujourd'hui.
Manu?
D'abord, moi, je voulais dire quand même que un petit mea culpa par rapport à hier, parce qu'hier avec Nico, on disait ouais, bon, la flamme, c'est pas ça.
Ouais, je vous sentais bougon tous les deux hier.
Mais là, franchement, les images étaient absolument sublimes. Bon, moi, je suis un fan de la Patrouille de France en plus, donc quand on les voit passer sur le Bel Air, c'est magique. Et Jules, on le reconnaît tout de suite, puisque en fait, à la
il
télé,
il était pas caché en fait, ils l'ont montré.
Il était pas caché. À la télé, on voit très vite les images de face. Et donc, sa tête, elle est quand même connue.
Il n'y a que les fins connaisseurs de rap français comme Manu qui l'ont reconnu au premier coup d'œil.
Mais non, c'est un chanteur de variété.
Il y avait quand même du suspense. Et puis bon, c'est vrai que ça a fait quand même une énorme surprise, je pense, à Marseille. Moi, Jules, ça me parle. Moi, je suis un peu comme Nico, ça me parle pas du tout. Je comprends même pas ses paroles, je pense. Mais je comprends le phénomène que ça représente à Marseille quand tu vois qu'il remplit le Vélodrome en quelques secondes.
Et puis, on a vu l'engouement sur place. On a entendu
les Marseillais et c'est toute la jeunesse aussi et les milieux populaires de Marseille aussi. Ça parle à tout le monde.
Marseille, mais toute la France qui s'est enflammée hier. On va accueillir tout de suite Madeleine au 32-16. Madeleine qui nous appelle de Cholet. Bonjour Madeleine.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, oui, Madeleine, moi je fais Cocorico.
Vive Marseille et vive les Jeux Olympiques. C'était fantastique, c'était merveilleux de revoir ces athlètes que l'on avait suivis, de voir cette flamme olympique sur ce chaudron allumé par Jules. Oh, ça, c'était beau. Ensuite, j'ai craqué. Celui qui a mon cœur, c'est la Patrouille de France.
Ah, ouais. Ouais. Ouais, magnifique. C'est moi aussi.
Magnifique.
La Patrouille. Les anneaux olympiques, c'était une première. Hein. Ouais. Il l'avait jamais
fait.
Les loopings.
Et les Français sont souvent premiers en tout, monsieur.
Oui. Madeleine, on aime bien râler, là, depuis des semaines, des mois. Mais alors, une fois qu'on y est, on se régale.
Moi, je ne râle jamais avant, je râle après pour critiquer si c'est moche. Mais tandis que là, c'était positif de voir toute cette jeunesse, de voir tous ces gens positifs, dynamiques et tout. Et bien que je n'ai que 75 ans, ben, j'aurais aimé être là-bas pour pouvoir danser, pour pouvoir crier. Vive la France, vive les Jeux Olympiques et surtout vive les athlètes. Et il y avait aussi ce bateau magnifique.
Ah, le Bellem, c'était magnifique aussi. Bougez pas Madeleine, j'aimerais qu'on donne la parole à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ce matin. Je vois Christian qui nous appelle de Toulon dans le Var. Comment ça va Christian ce matin ?
Bonjour, ça va bien, merci Charles. Merci,
d'ailleurs, bonjour à tout le monde. Toulon, vous allez avoir la flamme demain, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, hein, la flamme. Aujourd'hui c'est Marseille, elle part dans le Var dès demain. Hein.
Voilà, exactement. J'irai la voir. J'irai voir le passage de la flamme demain sur la place de la Liberté ou ailleurs, sur peut-être Port-Marchand. Voilà, ça dépendra. Voilà.
Et cette cérémonie hier soir, Christian, vous l'avez suivie ?
Oui, je l'ai suivie, enfin en différé, mais j'ai regardé. Effectivement, c'était très très enthousiasmant. Je trouve que c'est bien pour la France, pour l'image de la France que ça véhicule. Et puis voilà. Donc, je trouve que c'est aussi un bon choix à propos de Jules, simplement pour... Bah, Jules, comme il était dit sur le plateau, c'est l'image de la jeunesse. Et Zidane, ça parle, mais ça parle à une certaine génération. Zidane, c'était 98, c'est déjà loin.
Ça, c'est vrai, Christian, on en a débattu dans la rédaction cette nuit. Moi, je disais, vous savez, pour les ados de 15 ans, même quand on a 20 ans aujourd'hui, on n'a jamais
Marseille
vu jouer Zidane.
Hein. Jeune.
C'est un peu comme Platini pour ma génération, on ne l'a jamais vu jouer. Alors, je comprends le symbole, mais si on veut mobiliser les jeunes, les ados aujourd'hui vers les JO, c'est plus parlant pour eux, Jules ou même Soprano le soir, que Zidane. Après, il y a encore du suspense sur les derniers porteurs. Mmh. Je sais que Nico a mis une petite pièce sur Zidane en dernier porteur, c'est ça, à Paris, le 26.
Le vrai dernier porteur, celui qui rentre dans l'histoire, c'est celui qui allume la flamme à Paris.
Et là, il y a quand même des indices, qu'il y a quand même un certain nombre de personnalités qui sont déjà annoncées comme étant porteurs sur le parcours jusqu'à arriver à Paris. Ceux qui ne sont pas encore sur la liste, Marie-Jo Pérec, Zinedine Zidane, on peut s'attendre à ce qu'on les voit peut-être le jour de la cérémonie d'ouverture.
Du suspense. En attendant, toute la France va pouvoir voir la flamme. Bon, vous, Christian, vous avez de la chance, vous la verrez avant nous. À partir de demain à Toulon, elle démarre ce matin, tout à l'heure, à 8h20 en direct sur RMC. Et puis alors, Madeleine, on a vérifié, elle est dans le Maine-et-Loire. La flamme, elle passe courant mai, c'est ça ? Le 28 mai, Madeleine, si vous voulez la voir. Je ne sais pas si vous pouvez faire le déplacement, Madeleine.
Je suis handicapée, monsieur.
Ah, ça va être plus compliqué, Madeleine, pour vous, mais en tout cas, elle passera. Il y aura forcément de la ferveur locale du côté de Cholet. Elle sera aussi du côté d'Angers, me dit-on. Bref, Madeleine, en tout cas, on sent que vous allez vibrer, là, que c'est parti. On est tous en mode olympique, désormais, depuis hier soir. Ces JO, vous allez aussi, évidemment, les vivre sur RMC, radio officielle de l'événement. Et puis, on va suivre, évidemment, tous les jours le relais de la flamme. Mais ce matin, on a déjà hâte. Ce sera à 8h20, Notre-Dame de la Garde. On va vivre ça. Et puis, on sera même avec un porteur de la flamme, non pas Zinedine Zidane, qui pour l'instant n'est pas confirmé, mais un autre footballeur presque aussi talentueux que Zizou, Eric Dimeco, tout à l'heure avec nous à 8h40 en direct sur RMC, avant de porter la flamme ce soir du côté du Vélodrome. Il est 6h50 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant sur RMC, c'est Racontez-nous avec Nicolas.
Et je vous raconte l'histoire d'un hacker russe qui vient d'être identifié. C'est sans doute le hacker le plus dangereux du monde.
Et puis Sébastien, on n'a pas osé vous en parler.
Des politiques en Allemagne qui lancent le débat. Faut-il plafonner le prix du kebab ?
RMC, Apolline Matin.
Dans 8 minutes, il sera 7h sur RMC et on est ensemble jusqu'à 9h avec un programme très riche. À 7h10, les JO, c'est aussi le spectre de la surpopulation carcérale qui pourrait bien battre de nouveaux records cet été. Une des solutions, les transferts de détenus d'une prison saturée à une autre. On en parle avec Lucille Pascanet du service PJ d'RMC. Elle a vécu de l'intérieur l'un de ces transferts. C'est un document exceptionnel. RMC a retrouvé dès 7h10. À 7h20, le chiffre d'affaires avec Manu.
Eh ben, combien ça va nous rapporter ces JO ?
Ah oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, combien ça coûte, combien ça rapporte. À 7h40, il faut sauver le soldat Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance à la peine dans les sondages. Gabriel Attal a demandé à ses ministres de se démultiplier sur le terrain et dans les médias. À un mois, jour pour jour des européennes, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, sera mon invité à 7h40.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, l'histoire d'un hacker russe démasqué par les anglo-saxons.
Oui, on ne le connaissait jusqu'à présent que sous son pseudonyme Luke Bitsup, à la tête d'un réseau de hackers qui est le plus dangereux du monde. Sa spécialité, attaquer des institutions ou des entreprises, menacer de divulguer toutes leurs informations s'ils ne payent pas une rançon. Ce groupe sévit depuis la Russie. Il serait responsable de plus de 7000 attaques dans le monde depuis 2 ans et aurait obtenu ainsi plus d'1 milliard de dollars en rançon. Parmi les victimes, en France, les hôpitaux de Corbeil-Essonne et d'Armentières, le groupe La Poste ou encore Voyageurs du Monde. Il y a 3 mois, les services de police de 10 pays, dont la France, avaient mené une vaste opération contre le groupe LookBits qui a porté un grave coup aux hackers. Mais hier, les Américains et les Anglais sont allés plus loin puisqu'ils ont publié pour la première fois le nom et la photo du chef de ces hackers. Et ils ont offert 10 millions de dollars à quiconque permettra son arrestation.
Mais qu'est-ce qu'on sait sur lui ?
Eh bien, on sait maintenant donc, qu'il s'appelle Dimitri Korochev, qu'il a 31 ans et que d'après les 2 photos qui ont été publiées, il est plutôt beau gosse. D'après les policiers anglais, il est lui-même le créateur du logiciel de rançon qui a fait tant de dégâts. Il a aussi vendu ce logiciel à d'autres hackers qui le reversent ensuite 20% de leurs revenus, ce qui fait de lui un homme riche. Depuis que l'on connaît son nom, des geeks dans le monde entier se sont mis à la recherche de plus d'informations et le site spécialisé Numérama raconte qu'un Français a déjà retrouvé la trace de ses réseaux sociaux. On y apprend que Dimitri Korochev vit à Voronej en Russie, qu'il roule en Mercedes, qu'il pose avec des copains en uniforme de l'armée russe et que visiblement il a une passion pour le jardinage. Figurez-vous. Ah. Si les Américains arrivent à mettre la main sur lui, il ne s'occupera plus de son potager parce qu'il risque 185 ans de prison.
Ah oui, donc il risque de se mettre au vert.
Voilà.
Il serait donc plutôt beau gosse. Ça, c'est pas une info, c'est une estimation d'un commentaire de Nicolas Poincaré. On n'a pas osé vous en parler.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Et pourtant, Sébastien, des députés allemands veulent faire voter une loi pour plafonner le prix du kebab.
Oui, vous savez, le kebab en Allemagne, c'est extrêmement sérieux. Le kebab qui a été inventé à Berlin par un immigré turc. Le traditionnel sandwich qui est lui aussi victime de l'inflation. Il faut aujourd'hui compter 7 à 10 euros, alors qu'il y a à peine 2 ans, vous trouviez un kebab à 3 euros à tous les coins de rue, à Berlin notamment. Mais en Allemagne, cette flambée des prix du donner, qui a même été surnommé la donnerflation, provoque un débat politique. Le chancelier Olaf Scholz a été interrogé sur les prix du kebab et c'est le parti de la gauche anticapitaliste Die Linke qui s'est saisi de la question. C'est un appel à l'aide, estime la représentante de la jeunesse de ce parti, avec cette proposition de loi qui va être déposée, proposition de loi qui est expliquée par le quotidien allemand Bild, pour plafonner le prix des kebabs. 4,90 € et 2,90 € pour les étudiants. Les députés voudraient que l'État paye la différence, en fait.
Ah oui,
subventionne les kebabs.
Nous, on a le chèque carburant, ils auraient le chèque kebab.
Chèque kebab, ça coûterait quand même 4 milliards d'euros par an. On imagine difficilement ça en France, Manu Le Chypre, à l'heure où on fait des économies.
Bah déjà, le kebab à 3 euros, on n'imagine pas ça en France parce qu'on n'a jamais eu le kebab à...
C'est vrai. Ah, moi, j'ai connu le kebab à 4-5 euros, mais je suis pas tout jeune.
Par rapport à il y a 2 ans, il est en France, c'était déjà à 6-7 euros le kebab.
Eh bah, ben, de mon temps, on avait un kebab à 4,50 avec frites et canettes parfois.
Ah oui, bon, et puis on n'est pas sur 5 fruits et légumes par jour non plus.
Il y avait le ballon d'or.
Oui, c'était les belles années de la France. On était champion du monde 98.
Le gouvernement allemand, en tout cas, n'a pas retenu l'idée. Pour l'instant, impossible dans une économie de marché de contrôler les prix, dit le gouvernement. Mais ça fait débat. Le kebab, c'est 1,3 milliard de sandwichs consommés en Allemagne chaque année. C'est 4 fois moins en France.
On a un beau retard à rattraper, mais on va s'y atteler.
Et on a le jambon beurre.
On a le jambon beurre, c'est vrai. Et puis nous, on a ce tacos version lyonnaise aussi, là, qui cartonne un peu partout en France. Voilà, qui a un peu remplacé le kebab, les chaînes de tacos.
Au tacos. Avec les frites à l'intérieur du sandwich.
Oui, et puis alors de multiples viandes diverses et variées à l'intérieur du sandwich. On va pas trancher ce débat. Et tout de suite sur RMC. Il est 6h56. Vous retrouvez évidemment, on n'a pas osé, racontez-nous toutes les chroniques d'RMC quand vous voulez en podcast, évidemment, sur l'appli. Et puis tout de suite, c'est le journal de 7h qui approche, avec à la une, Jules, qui a allumé le chaudron olympique. C'était la grande surprise, notamment hier soir, au moment de l'arrivée de la flamme à Marseille.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.